Une petite halakha de Yom Tov, avant de commencer. A-t-on le droit de moudre ou d'écraser de la pomme de terre, ou de la viande ou de l'avocat le jour de Yom Tov? Alors, comme on l'a vu déjà plusieurs fois, le Yom Tov, les Chachamim ont permis de faire des travaux qui servent à manger. Tous les travaux qui servent à manger, on a le droit de les faire. D'accord? Ce qu'on appelle Melechet Ochel Nefesh. Tout ce qui sert à manger, on a le droit de le faire. Mais il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire. C'est des choses qui font perdre le sens de la fête. Ou alors des choses qui fatiguent. Donc tout ce qui est dans la définition d'oublier la fête ou de rentrer dans les problèmes de cuisine sous prétexte qu'on veut manger frais sont interdits Yom Tov. Donc si vous allez moudre ou écraser des légumes, si vous le faites avec un appareil qui sert à ça, alors il faut le faire avec un changement. Pour pas perdre la tête que c'est Yom Tov, c'est pas un jour de chol. Donc soit, qu'est-ce que c'est le changement? Soit vous changez de main, soit vous mettez dans une assiette au lieu d'un plat, soit vous faites ça avec une fourchette au lieu d'un couteau. Vous changez quelque chose qui vous rappelle que c'est pas l'habitude que vous avez. Et deuxième condition, c'est qu'il ne faut pas en faire une telle quantité ou que ce soit tellement dur à couper que ça vous prenne des heures. Si vous remplissez ces deux conditions, vous avez le droit, si vous pensez que c'est mieux, d'écraser les pommes de terre ou de les servir entières. Vous avez le droit de le faire. D'accord? Pareil pour le fromage, par exemple. Vous voulez faire du fromage dur, vous voulez faire du fromage dur, vous voulez râper le fromage. La même chose, si vous avez l'habitude de... Enfin, je sais pas, vous voulez faire une omelette au fromage, un plat. Alors, vous avez le droit de râper le fromage à condition que vous n'utilisiez pas un appareil compliqué pour le faire. Soit une râpe ordinaire... Et comme on l'a dit, vous faites une petite transformation, un petit chinouille. Soit vous le faites direct, vous faites sur un papier au lieu de faire dans une assiette. Ou vous soulevez au lieu de faire à plat, etc., etc. Et également, il faut pas en faire une quantité telle que ça va vous prendre la matinée à faire ça, et donc vous allez pas écouter le chauffard, vous allez pas, vous allez rester dans la cuisine toute la matinée à cause de ça. D'accord? Alors c'est bien que vous ayez le droit, donc, de faire une chose que les gens veulent manger. Les gens, ils préfèrent un concombre coupé fin qu'un concombre coupé gros. Il faut respecter ces deux conditions. Pas de questions? Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour Yom Tov cette année? Il y a ce qu'on appelle le Eruv Tafshilin cette année. Hein? Comme il y a le Shabbat qui suit les deux jours de Rosh Hashanah. Donc, pour qu'on ait le droit de faire des travaux culinaires pour le Shabbat, alors comme il y a ce qu'on appelle le Hérouv, le fait de solidariser des maisons entre elles, ou de solidariser une ville pour qu'elle fasse qu'un seul domaine, on doit solidariser le temps. Que les trois jours de fête, enfin les deux jours de fête et le Shabbat, ne fassent qu'un seul temps. Pourquoi? Parce que quand c'est la fête, chaque jour est un jour pour lui-même. On n'a pas le droit, par exemple, de préparer du premier jour de Rosh Hashanah pour le deuxième jour de Rosh Hashanah. On a le droit de préparer que pour le jour lui-même. Donc par exemple, si on arrive, la fête c'est mercredi soir, donc jeudi, en fin d'après-midi, vous n'avez pas le droit de préparer des choses pour le jeudi soir, parce que c'est déjà un autre jour. Et encore plus, à plus forte raison pour le vendredi matin. Donc si vous voulez préparer quelque chose, il faut le faire dans la journée elle-même. Pourquoi ? Parce que la fête, c'est une entité à part. Donc chaque jour est valable pour lui-même. Ah d'accord. Donc si vous estimez que vous allez de toute façon en manger dans le premier jour, même s'il en reste pour le deuxième jour, là ça marche. C'est comme s'il restait, quoi. Qu'est-ce qui se passe, par exemple ? Vous avez Donc maintenant, vous avez un problème pour le Shabbat. Étant donné que le Shabbat, vous ne pouvez pas préparer le Shabbat lui-même, par exemple, les bougies. Vous allez allumer les bougies de Shabbat avant Shabbat. Mais avant Shabbat, c'est encore Yom Tov. Donc comment vous faites ? Donc c'est pour ça qu'on fait le Eruv Tafshilin. Le Eruv Tafshilin, c'est pas seulement pour cuire. C'est pour pouvoir faire tous les travaux de cuisson et de feu d'un jour à l'autre. Donc essentiellement, du vendredi sur le samedi. Du vendredi sur le Shabbat. Je crois qu'il va falloir décrocher parce que sinon on va être... Sinon en Norvège, ils vont dire... Ils se moquent de nous là-bas, dans ce pays développé. Et surtout qu'ici, quand ils téléphonent, ils arrêtent. Ils ne comprennent pas que... C'est la maman en général. Bah ouais, elle m'appelle de Paris, elle veut savoir s'il n'est pas mort, s'il mange bien, s'il achète des chaussettes propres. Si on ne l'a pas égorgé encore. Oui, ils sont les petits-enfants. Donc, à cause du Shabbat, on a besoin de ce Eruv Tafshilin. Pour que la préparation du Shabbat, qui va donc avoir lieu vendredi, elle puisse être permise, puisqu'on ne peut pas préparer de vendredi pour Shabbat. Donc on fait ce qu'on appelle un Eruv Tafshilin, c'est-à-dire une solidarisation des plats. Donc, pourquoi on appelle ça Tafshilin ? C'est parce que le Yom Tov, on a le droit de cuisiner à l'eau et de cuisiner au four. Les deux façons de cuire. C'est soit la pâtisserie, soit la cuisson. Donc dès que c'est à l'eau, ça s'appelle en hébreu bichoul. Et qu'on met de l'eau dans quelque chose, ça s'appelle bichoul. Dès qu'on le fait sans eau, ça s'appelle afia. En français, on dit ou à l'eau ou au four. Donc, ces deux modes de cuisson, c'est les modes de cuisson qu'on a toujours l'habitude d'utiliser pour manger. Donc, pour permettre tous les travaux d'un Yom Tov à Shabbat, donc on va faire un plat à l'eau et un plat au four. Donc, c'est pour ça qu'on prend deux tafshilin, un tafshil cuit à l'eau et un tafshil cuit au four. Donc pour faire le Eruv Tafshilin, on prend donc un plat cuisiné à l'eau, donc soit une salade, soit un œuf, soit un poulet, soit quelque chose qui est à l'eau, et un morceau de pain ou un morceau de gâteau qui est donc cuit au four. On prend de quoi manger une personne. Et on prépare ça avant la fête, donc mercredi dans l'après-midi, et on le soulève. En général, le minhag, le mieux, c'est de le faire par d'un voisin. On donne à un voisin, comme ça on donne le mérite à quelqu'un d'autre, donc on montre qu'on est solidaires tous ensemble, et on fait la bracha du Eruv qui est dans les livres de prière de Rosh Hashanah ou les Sidourim ordinaires. Et grâce à ça, tous les gens, même pas seulement vous, mais tous les gens de la ville peuvent cuisiner pendant Yom Tov pour Shabbat. Et effectivement, ces deux plats qu'on a cuisinés, on doit les manger, comme on les a préparés avant la fête, on doit les manger au dernier moment du Shabbat. C'est Ouda Shlichit. C'est comme ça qu'on fait. Pas de questions sur le Eruv Tafshilin? Et les bougies, vous n'allumez pas? Et les flammes, vous allumez pas, et les... Il y a toujours des travaux que vous faites pendant du jeudi, du vendredi au samedi. Même les gens qui cuisinent pas, ils doivent le faire. Parce que... C'est toujours des travaux qu'on doit faire. Voilà. Voilà, on ne peut faire la vaisselle que si cette vaisselle, vous avez l'occasion de vous en servir avant la nuit. Tant que ce n'est pas encore le coucher du soleil, vous pouvez encore manger.
Non, par exemple, première,
de alors, tant que ce n'est pas le coucher du soleil.
Presque fini, mais il y a la vaisselle du midi. Donc, on ne peut pas laver avant la fin du
midi. Non, je viens de vous expliquer tout ce qui est vaisselle que vous pouvez utiliser maintenant. Par exemple, dans le jeudi après-midi,
oui.
Vous avez le droit de manger jusqu'au coucher du soleil. Alors, puisque vous avez le droit de manger jusqu'au coucher du soleil, vous avez le droit de laver tout ce qui pourrait vous... Oui, vous pouvez toujours avoir des invités qui arrivent à l'improvise, vous pouvez toujours avoir des... Vous avez compris? Ou alors ça sent pas bon, parce que c'est avec la chaleur, ça... Les saletés des assiettes, ça donne une mauvaise odeur dans la cuisine, etc. Donc, vous pouvez dire, je fais ça par honneur pour le Yom Tov. Ce que vous ne pouvez pas laver, c'est les marmites, par exemple. Parce que la marmite, c'est évident, vous n'allez pas faire un poulet rôti pour jeudi après-midi. Mais à part les grosses vaisselles, vous avez le droit de laver des petites choses, les fourchettes, les assiettes, les verres, les
donc,
choses pas choutes.
Est-ce qu'on peut préparer la table
tout, Non, il faut attendre la nuit. Ouais.
Il faut attendre la tombée de la nuit.
Tout ce qui est mamache pour la nuit, vous n'avez pas le droit de le faire. Et tout ce que vous pouvez dire que c'est pour la journée, vous avez le droit de le faire. Vous pouvez faire la vaisselle à condition de penser que vous allez utiliser cette vaisselle encore dans la journée, quoi. C'est des gens qui viennent à l'improviste et vous leur servez de la pastèque ou de la glace, etc. Alors vous avez besoin d'assiettes.
On pourrait chauffer le plat pour le deuxième.
Non. Tout ce qui n'est pas encore lié à la journée de la nuit, vous devez attendre la nuit. Vous avez compris? Le héros, c'est pour le Shabbat que vous faites ça. Le héros, c'est à cause du Shabbat. Quand vous ne pouvez pas rien faire Shabbat pour Shabbat, donc on vous laisse faire vendredi pour Shabbat. Donc le héros, il est en réalité pour le Shabbat. On ne fait pas des héros tafshilin quand il y a seulement Yom Tov. On fait héros tafshilin que quand il y a un Shabbat qui suit la fête. Jeudi, vendredi, et il y a Shabbat derrière. On est obligé de faire héros en Eretz Israël. Les autres fêtes, non, on n'aura pas besoin, puisqu'on aura un Chol HaMoed au milieu. En Chutz La'aretz, ils font les héros trois fois.
Le plat du jeudi soir, on ne peut pas le réchauffer avant la tombée de la nuit
du jeudi soir. Voilà, vous êtes sûr qu'il y a trois étoiles, alors vous pouvez, vous dites, Baruch Hamavdil Ben Kodesh le Kodesh. Non, vous ne dites rien en fait. Vous ne dites rien du tout, vous continuez. Alors, pareil, tout pour le deuxième Yom Tov. Voilà.
Mais par contre, le Shabbat, il faut faire avant.
Shabbat, il faut faire normalement à l'entrée du Shabbat, tranquille.
Mais pour mettre la vaisselle, tout aussi, il faut attendre la nuit.
Voilà, c'est ça. Oui. Parce que ma pitom que vendredi après-midi, en tant que Yom Tov, vous avez besoin de mettre une nappe et c'est évident que vous le faites pour Shabbat.
Comment je fais les plats de
Shabbat? Vous pouvez, puisque vous n'avez pas le choix. Vous avez fait le verrou. Mais pour les autres préparations, non.
Et pour la musique, quand on allume les visiteurs, ça va.
Eh ben, vous les allumez avant, comme Shabbat.
Ragui, on vient.
Ben oui.
Ah, aussi pour la vaisselle.
Ouais. Voilà. Pas de question? Pas de question. On y va. Alors, on va parler de Rosh Hashanah, bien évidemment. Bien évidemment, et que ce soit de la Parashat HaShavua ou de Rosh Hashanah, ça serait pareil, puisque de toute façon, avant Rosh Hashanah, on lit toujours la Parashat Nitzavim. Donc, qu'on décide de parler de la Parashat ou qu'on parle de Rosh Hashanah, on arrive à la même chose, puisque les deux événements sont toujours en même temps, chaque année.
passer Rosh Hashanah.
En quoi ça nous concerne? Alors, vous savez, plus ou moins, plutôt plus que moins, ce que dit le Admor HaZaken dans la fameuse lettre, la fameuse Yigret HaKodesh, où il explique un pasouk du la parashat Ekev. Par contre, la parashat Ekev, qu'on a lu il n'y a pas longtemps, et le pasouk dit là-bas, Ene Hashem Elokecha Ba, que la terre d'Israël, par contre, il dit sur la terre d'Israël, Ene Hashem Elokecha Ba, que les yeux de Dieu, l'éternel ton Dieu, sont sur elle, sur la terre, mais Reshit Hashana, du début de l'année, Ve'ad Acharit Shana, jusqu'à la fin de l'année. Alors, l'Admor HaZaken, là-bas, il pose une question classique. Il dit, puisqu'il y a écrit que les yeux de Dieu, c'est-à-dire la providence, les yeux de Dieu, c'est-à-dire le flux que Dieu donne au monde, ça s'appelle les yeux de Dieu. Puisque cette providence et ce flux sont du début de l'année à la fin de l'année, alors il avait qu'à dire, sont toujours. Puis si c'est d'un bout à l'autre de l'année, c'est que c'est toujours. Il aurait dû dire Tamid au lieu de dire Mereshit Hashana ve'ad Acharit Shana. Il aurait dû dire Ene Hashem Elokecha Haba Tamid. Alors il dit pourquoi il n'y a pas écrit Tamid? Et il répond parce que en vérité la veille de Rosh Hashana, le 29 Elul de chaque année, Dieu retire la vitalité au monde. Il retire sa vitalité au monde et elle est reconduite, elle revient que le lendemain, le jour de Rosh Hashanah, grâce aux tfilot qu'on fait et grâce aux tkiot, grâce aux prières et aux sonneries.
C'est ça, quand est-ce qu'il les retire?
Le 29 Elul. Au coucher du soleil, il y a un retrait, une istalkout, il y a un retrait de la vitalité. Et le lendemain, ça revient grâce aux prières et aux sonneries. Donc, on va expliquer qu'est-ce que ça veut dire cette... Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, contrairement à ce qu'on aurait pu croire, Dieu n'a pas créé un monde pour l'éternité, il ne le crée pas pour toujours, il le crée pour un an. Chaque année, il y a un budget de vie pour pas plus qu'un an, jusqu'au 29 Elul. Après le 29 Elul, il n'y a rien de prévu. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas dire Tamid. Ce n'est pas Tamid, c'est pour un an. Donc, ça veut dire que le lendemain, le monde va être renouvelé. C'est pas le même, c'est un monde nouveau qui va apparaître. Bien que nos yeux ne le voient pas forcément, ça le grand chidouche, c'est de dire que justement le monde se retire sa vie et reprend la vie. Donc c'est pour ça que quand on dit Mireshit Hashana Avead Acharit Shana, c'est que Dieu, il a un projet pour de Rosh Hashanah au 29 Elul, c'est tout. Après, il faut recommencer. En profondeur, c'est à chaque seconde. À chaque seconde, il irrigue la vie au niveau profond. Mais au niveau de la metziout, de la réalité, c'est pas à chaque seconde, c'est chaque année. À l'intérieur de chaque année, ça se fait en secret chaque seconde. Mais officiellement, c'est chaque année. Mais la question qu'on peut poser, c'est en quoi ça se matérialise ce principe de retirer la vie et de la redonner. Ça veut dire quoi, retirer la vie et la redonner? Alors, on donne l'exemple. C'est l'exemple qu'on donne d'un ouvrier. Quand un ouvrier ou un artiste, ou n'importe qui. Quand quelqu'un fait un travail avec ses mains, il a deux façons, la personne a deux façons de faire un travail avec ses mains. Soit il met du plaisir et de l'énergie dans ce qu'il fait, soit il ne met pas d'énergie et de plaisir dans ce qu'il fait. Donc, et ça, on le voit quand on regarde. Quand on regarde quelqu'un agir dans le monde, on voit si ce qu'il fait, il est, comment dire, en ochen. Ça veut dire, il est cuit là-dedans, il est, la chambre court. Il est, non, plus que s'investir, il est cuit là-dedans, il baigne là-dedans, c'est encore plus que s'investir. Il est mobilisé complètement là-dedans, ou il fait ça du bout des doigts. Donc, on peut exactement faire la même chose, soit du bout des doigts, soit avec investissement et concentration. Et c'est ça la différence. C'est ça la différence. C'est que le travail qui est fait du bout des doigts, il sera mal fait. Il sera mal fait et il sera pas pour longtemps. Il va avoir plein de défauts. Et même ce qui va être fait ne va pas durer. Alors qu'un travail qui est fait avec le principe de se noyer dedans, de s'investir et de se cuire dedans, ça va automatiquement être marqué par les mains de la personne. On va sentir que la personne a mis ses mains dedans. Donc, si vous faites un plat, si vous n'y mettez pas de l'énergie, à faire ce plat, il n'aura pas le même goût que si vous mettez de l'énergie. Quelle que soit l'action que la personne fait, si elle s'investit dedans et si elle y croit, ça n'a pas le même intérêt que si elle n'y croit pas. C'est pour ça que quand un enfant il fait un gribouillis ou un n'importe quoi, il faut lui, comme il s'est investi très souvent dedans, il ne s'occupait rien d'autre que de ça, donc il faut lui faire comprendre, ah c'est beau, c'est bien, oh c'est joli cette maison, parce que sinon il va dire quoi, moi j'ai mis toute mon âme là-dedans et les grands ils s'en fichent, d'accord. Et donc la même chose quand on est grand. Et donc les kiviyachol, si on peut dire, c'est la même chose pour le bon Dieu. Quand on dit que le bon Dieu retire la vitalité le 29 Elul, ça ne veut pas dire qu'il la retire réellement, puisqu'on voit bien que le monde y marche. On voit bien que le monde y continue à tourner. Par contre, quand vous regardez le ciel le 29 Elul au soir, et que les étoiles arrivent, etc., vous voyez bien que le monde continue à tourner. Oui, le monde continue à tourner, mais le bon Dieu n'a plus d'énergie dedans. Il est, en quelque sorte, il n'est plus motivé à créer ce monde. Il a donné un an, et ça y est, il se retire. Donc il le fait comme ça, quoi, le bout des doigts. Donc il n'y a plus de pnimiyut, il n'y a plus d'intériorité à ce monde. C'est exactement ce que la Kabbale appelle la Nessira. La Nessira, c'est le phénomène qui s'est passé juste le jour, le premier Rosh Hashanah de l'histoire, quand Adam Harishon a été créé. Quand il a été créé, en fin d'après-midi, il y a eu une Nessira, c'est-à-dire qu'il s'est endormi. Adam Harishon s'est endormi. Pour qu'on lui crée Chava de son sommeil, il a été attrapé d'une tardema, il s'est endormi. Et donc, quand on est endormi, évidemment, on n'arrive pas à jouer du piano ni à faire un œuf sur le plat. Donc, cette tardema, cette somnolence d'Adam Harishon, ça correspond en quelque sorte à la somnolence de Dieu. Dieu somnole, c'est un intérêt. Il crée le monde et il fait vivre le monde sans y croire, sans mettre d'énergie. Et d'où vient que quelqu'un mette de l'énergie dans ce qu'il fait ou qu'il n'en mette pas? D'où vient? D'où vient que quelqu'un mette de l'énergie dans ce qu'il fait ou qu'il n'en mette pas?
C'est l'intérêt,
la motivation qu'on appelle en hébreu le ta'anoug, le plaisir de faire ce qu'on fait. Donc quand quelqu'un fait quelque chose, il a un ta'anoug à le faire, soit financier, il va gagner beaucoup d'argent, donc il aime ça, soit il aime la chose elle-même, parce que ça lui fait plaisir. Soit il veut épater la galerie, que les gens le regardent comme il est fort. Donc il a un plaisir à ça. C'est le plaisir de faire qui provoque la motivation et l'intérêt. Et donc on dit la même chose chez Dieu. Dieu n'a plus...
Même pas.
Non, on parle dans un cas où, on n'a pas dit que c'est toujours comme ça. Donc chez le bon Dieu... si on peut dire, le 29 Elul, il perd le Ta'anout, il n'a plus le délice de créer le monde, puisque le contrat qu'il a avec le monde se termine, comme un employé qui sait qu'il s'en va, en général, quand il sait qu'il s'en va, il met plus son cœur dans ce qu'il fait, quoi. Donc la même chose, puisque Dieu n'a donné de la vie que pour un an, arrive le dernier jour, donc il fait ça sans motivation. Et on pourrait même se dire qu'il se tâte si oui ou non demain il va recréer le monde. Donc qu'est-ce qui le remotive? Donc comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas qu'il va arrêter de le créer, puisque comme un mauvais employé, tant qu'il n'est pas mis dehors, il continue à remplir les papiers, à faire les choses. C'est pas qu'il ne fait rien ou qu'il claque la porte. Non, il fait les choses du bout des doigts. Donc le bon Dieu aussi, il fait les choses du bout des doigts. Ça veut dire qu'il va diriger le monde du bout des doigts. Avec tout ce que ça implique comme mécanisme. Donc si Dieu n'a plus de délices à créer le monde, ça peut être très mauvais pour nous. Parce qu'il va dire, ah bon, vous voulez manger, allez hop, voilà, un peu de récolte. Vous voulez boire, allez, un peu de pluie. Vous voulez un peu de soleil, bon, un peu de soleil. Il va faire tout comme un employé qui se casse pas trop la tête. Donc il faut à nouveau, pour que le ta'anoug, puisque pour que le délice de Dieu se renouvelle, de donner de la vie intéressante à ce monde, il faut que la créature, il faut qu'en bas, on lui donne l'envie de redonner de la vie. Donc il faut qu'on lui montre que nous, on a un ta'anoug à le voir régner sur nous. C'est donnant-donnant. Comme on dit toujours, Taruta dit le tata, le réveil d'en bas, qui réveille le réveil d'en haut. Iretaruta dit l'éla. Donc le bon Dieu fait comme si il n'avait plus aucun intérêt à créer le monde. Donc il lui donne ce qu'il faut, sans y croire. Et par le fait qu'on va le proclamer Melech, on va le proclamer roi demain, par la tfila et les sonneries du chauffard, il va à nouveau, puisqu'il va dire, ah, on me demande d'être roi, j'intéresse le monde, puisque je les intéresse, alors il m'intéresse aussi. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il n'y a pas de... En quelque sorte, Dieu n'a pas un intérêt éternel à ce monde-là. Il a un intérêt pour un an. Vous voulez qu'il re-signe un contrat avec vous? Il faut qu'il ait envie de le signer. Donc, pour qu'il ait envie de le signer, il faut déclencher chez nous, pardon, le délice de le voir roi. Si on s'en... Non, au début de l'année... S'il y a un délice de le voir être roi, alors il aura un délice d'être roi. Comme une mère avec son enfant. C'est vrai qu'une mère normale, elle abandonnera jamais son enfant. Mais si son enfant s'en fiche tout le temps, ne s'intéresse pas du tout à sa mère, ou la mère va faire les choses par routine. par obligation. Alors que si l'enfant montre qu'il veut faire plaisir à sa maman, qu'il veut créer une relation entre ses parents et lui, alors automatiquement, même la relation de parent à enfant, elle va se réveiller d'une façon différente. Pourtant, c'est une relation naturelle. Ça veut dire qu'une mère normale, même si son enfant est insupportable, elle ne va pas le laisser mourir de faim ou le laisser mourir de maladie. C'est sûr que même si une mère n'aime plus son enfant, elle va quand même faire le minimum. Mais il y a une différence entre le minimum et le maximum. Alors le maximum vient quand on sent qu'en face, il y a un sentiment d'appel. Donc si le bon Dieu, il se rend compte qu'on a besoin de lui et qu'on le veut, grâce à la tchouva et aux sonneries, aux filotes, alors il dit, le monde veut à nouveau que je règne, alors là je vais redonner de la vie avec plaisir. Alors qu'autrement, il donnerait de la vie sans casser la tête. Si Dieu ne se casse pas la tête à faire une chose, ça veut dire que c'est très très pâle, c'est très fade. Alors, comme nous sommes le peuple de la primiyut, de l'intériorité, de la profondeur, donc c'est nous qui redonnons la profondeur au monde. Sinon, le bon Dieu, il régnerait comme un ministre qui termine son mandat, donc il règle les affaires courantes, et puis ça y est, il s'en va. Alors que s'il vient d'être élu, etc., il essaye de faire plaisir, de faire des nouvelles lois, de recevoir les gens, de changer les choses. Sinon, il dit, bon, écoutez, j'en ai pour quelques semaines, on finit les dossiers qu'on a ouverts. Donc ça veut dire quoi pour nous? Ça veut dire que quand arrive Rosh Hashanah, pourquoi il y a ce mois de Elul, hein? Pourquoi il y a besoin de faire tchouva avant Rosh Hashanah? Parce que faire tchouva, ça veut dire retrouver la motivation. Si on veut que Dieu soit motivé à notre égard dans l'année, il faut que nous, on soit motivés à son égard. Pourquoi? Parce que le monde ne marche pas par hasard. Il marche par feedback de ce qu'on fait. À l'époque de la galoute, quand la galoute était dure, pas comme aujourd'hui, il y avait une xéra de la galoute. Une xéra de la galoute qui faisait que qu'on se conduise bien ou qu'on se conduise pas bien, tout était difficile. C'était la xéra depuis Essav. La xéra d'Essav. Qu'on a volé la bracha à Essav, donc les goïms nous font des problèmes, et donc la galoute sera dure. Mais maintenant qu'on est à la fin de la galoute ne doit pas être dure. La preuve, on voit bien que il n'y a pas les maladies qu'il y avait avant, il n'y a pas la famine qu'il y avait avant, il n'y a pas les guerres qu'il y avait avant, il n'y a rien. Il n'y a rien de mal. Donc si quelque chose ne va pas bien dans notre vie, c'est que nous n'avons pas le ta'anoug dans la Avodat Hashem. Nous manquons de plaisir dans la Avodat Hashem. Quelqu'un qui n'a pas de plaisir dans la Avodat Hashem, eh ben Dieu aussi, il n'a pas de plaisir à lui donner ce qu'il doit lui donner. Il dit, bon, la santé, je te la laisse. La parnassa, je te la laisse. Moi, ça va. Tu n'as pas de plaisir à me servir. Moi non plus, j'ai pas de plaisir. Je te donne juste le minimum. Pas trop de maladies, pas trop de problèmes, mais pas du sérieux. Tu vas avoir des relations bancales avec les gens, tu vas avoir des relations bancales avec ton banquier. Tu vas tout être tordu. Il y aura, mais tordu. Pourquoi? Parce que, qu'on le veuille ou non, le réveil d'en haut ne peut venir que du réveil d'en bas. Comme on dit en hébreu, en manos. Il n'y a pas d'échappatoire à ça. Tu veux que Dieu te donne, il faut que tu montres que tu t'intéresses à lui. Tu t'intéresses à lui et à ses mitzvot, ça veut dire. Lui et sa volonté. Tu montres que tu t'intéresses pas tellement à lui, tu fais un peu ce que tu veux quand tu veux. Bah lui aussi, il fera ce qu'il veut, ce que lui veut quand il veut. Donc c'est pour ça que ce sujet du délice que Dieu a créé le monde, il s'arrête à Rosh Hashanah et c'est nous qui devons le redonner. Vous voyez qu'aujourd'hui, par exemple, le Rambam il dit que les Chachamim ne voulaient l'avenue de Mashiach que pour pouvoir être tranquille pour étudier la Torah. Il dit ça dans les lois de Tshuva, hein? Pas dans les lois de Mashiach, dans les lois de Tshuva, il dit ça. Que les Chachamim ne voulaient l'avenue de Mashiach que pour être tranquille. Ne plus avoir l'égoïme sur la tête et pouvoir se consacrer à l'étude de la Torah. Aujourd'hui, on est là. On en est là. Il n'y a plus de Shibud Malchouyot, il n'y a pas de goïm qui nous casse les pieds. Et malgré tout, vous voyez que au lieu de que nous trouvions un délice dans l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot, nous sommes capables de perdre notre temps à chercher des plaisirs ailleurs. Dans les voyages, dans les restaurants, dans les bagarres entre les gens, dans les recherches de choses qui n'ont rien à voir avec la Torah. D'où ça vient? Ça vient qu'il n'y a pas de délice dans l'accomplissement de la Torah et des mitzvot. Pour quelle raison quelqu'un il a besoin de se promener sans arrêt, d'aller dans un restaurant? Pourquoi? Pourquoi il ne trouve pas son délice ni dans la fila, ni dans les mitzvot, ni dans la Torah? Alors, ça vient du problème qui est soulevé dans la paracha de Nitzavim. Dans Nitzavim, il y a deux raisons à l'éloignement de Dieu qui donne dans Nitzavim. Première raison qu'il donne, il dit là-bas que le cœur va se boucher, notre cœur va se boucher, on appelle ça en hébreu atimut alev, le cœur devient bouché, donc il n'est pas sensible, ni à un bon shiur, ni une belle fila, ni une mitzvah, il n'est pas sensible. Tout est bof. Tout est... Ouais. Donc c'est ce qu'on appelle atimut alev, le cœur bouché. Et deuxièmement, va venir l'attirance vers toutes les sortes d'avodah zara. Donc ces deux défauts qui font que l'homme s'éloigne de Dieu sont écrits dans la parasha de Nitzavim. Bon. Il grossit ça très fort, mon cher Rabbeinu, il dit, ton cœur va être bouché et tu iras vers toutes les idoles possibles des goïms qui sont autour de toi. Et donc, il va t'arriver tout ce qui t'arrive, tout ce dont on a parlé la semaine dernière dans les malédictions de Kitavo. Maintenant, on fait le phénomène à l'envers maintenant. D'accord? Maintenant, à cette fin de galoute, on fonctionne à l'envers. Donc, doucement, le bon Dieu a enlève doucement tous les avodah zara auxquels les gens s'accrochaient. Il a tué tous les ismes dans le 20e siècle. Dieu a tué tous les ismes. Comme ça, les juifs, ils reviennent aux judaïsmes. D'accord? Donc, toutes les folies que les goïms présentaient, Dieu les a abattues les unes après les autres pour que les juifs disent, bon, attends, alors, ça racole, qu'est-ce qui reste? Le judaïsme. Maintenant, il reste une autre force du mal qu'on n'a pas chassée, c'est celle de la timut alev, le cœur bouché. Ça veut dire que les gens, malgré eux, ils sont revenus. Tous les gens qui sont revenus à Dieu dans ce siècle, c'était pas grâce à eux, c'était pas comme Abraham Avinu qui avait une possibilité de faire Avodah Zara, il a dit non, je ne fais pas Avodah Zara, je fais le judaïsme. Dieu, il a démoli tout. Maintenant qu'il a démoli tout, alors qu'est-ce qu'il te reste? Alors tu te retrouves en synagogué, Tu te retrouves avec la cacheroute, le shabbat, les mitzvot, mais tu t'emmerdes. Mais tu te fais suer. Tu fais ça parce que tout le monde le fait, parce que tu n'as pas le choix, c'est la mode. C'est le vent dans lequel tout le monde va. Mais en vérité, tu as une envie, c'est de sortir, de voyager, tu veux action, tu veux de l'animation. Donc c'est-à-dire, dans ta vie, il n'y a pas d'animation de la Torah et des mitzvot. Donc ça veut dire que nous avons encore le problème de du bouchage du cœur. Du cœur bouché. Et c'est à cause de ces deux facteurs, quand on a soit la tentation de l'extérieur, soit le cœur bouché, c'est à cause de ces deux facteurs qu'il ne peut pas y avoir de délice pour le service de Dieu. Et donc automatiquement, s'il n'y a pas le délice pour le service de Dieu, Dieu n'aura pas le délice de faire vivre le monde. En travaillant. Ça veut dire, Dieu s'est occupé d'enlever les ismes, ok? Il chasse les ismes. Voilà, vous avez encore, avant-hier, il y a eu un pauvre juif d'Akko qui s'est fait tuer en Thaïlande. Vous voyez, ça leur suffit pas, il y a eu le tsunami, ils repassent aux mêmes endroits, et il y a eu la mousson, le bateau s'est renversé, c'était la semaine de son mariage, il s'est fait tuer. Hein? Jusqu'à, et le bon Dieu, il fait des bras de fer avec tout le monde. Il fait des bras de fer. Je ne veux pas que vous... C'est un endroit d'Abu Dazara, c'est un endroit de gravation, elle est là-bas. Donc vous irez là-bas. Le bon Dieu va t'arranger, en France, pour que les gens s'inscrivent dans les écoles juives. De mettre des coups de bras de fer. Et le bras de fer. En France, vous savez pourquoi tous les gens s'inscrivent. On ne pas être dans les écoles. Ça veut dire que Dieu fait le bras de fer avec vous. Enlevez tous les l'attrait des choses. Donc, maintenant qu'on a gagné ça, le cœur bouché, ça tu l'as encore. Wow. Le cœur bouché, c'est un travail que tu dois faire. Déboucher le cœur. Tu ne peux pas. Ad aeternam, attendre que tout vienne de l'extérieur. Tu ne peux pas tout le temps être assisté. Les gens veulent être assistés. Ils veulent qu'on leur fasse tout le travail. Ils veulent avoir un plaisir de faire la Torah avec les potes qui viennent comme quand on regarde la télé, quoi. Que ça vienne tout seul. Ça ne viendra pas tout seul. Ça doit venir que par un travail. C'est ce qu'on appelle la primiyut. Les choses profondes ne peuvent s'acquérir que par le comportement. Non, vous pouvez aimer la musique, écouter de la musique dans un fauteuil. Et bien, si vous voulez jouer de la musique, il faut travailler dur. Il faut travailler vos gammes. Vous pouvez aimer la peinture, ou aimer écrire des livres, aimer lire des livres, maintenant écrire un livre, ou peindre, ou faire n'importe quoi d'intéressant, ça demande du travail. Quand les gens regardent un footballeur qui joue, ou qui voit un sportif, ils disent « Ah, c'est beau et tout », mais ils ne se rendent pas compte qu'ils travaillent 15-16 heures par jour pour faire ça. Ou une danseuse, on dit, oh, c'est joli, elle a fait un truc formidable. Ouais, elle a fait un truc formidable, ça fait 20 ans qu'elle travaille là-dessus. D'accord? Donc, même un cuisinier, même un avocat, n'importe quoi, pour que ce soit intéressant à faire, c'est automatiquement dur à faire. Il n'y a pas d'autre réponse. Pas d'autre réponse. Vous ne pouvez pas faire quelque chose d'intéressant dans la vie du bout des doigts. Si vous voulez faire quelque chose d'intéressant, il faut se fatiguer dessus. Donc le judaïsme, c'est la même chose. Avant Adam Arishon, avant la faute d'Adam Arishon, oui, tout était facile. Adam Arishon n'avait rien à faire.
Et que dans la bouche.
Dans tout.
Ah bon?
Mais alors, pour être un voleur, il faut travailler. Sinon, on se fait attraper tout de suite.
Ça réussit. Ça fait partie de notre nature d'être comme ça.
De quoi? D'être travailleur?
Non, justement, de ne pas être travailleur.
Mais pourquoi? C'est la nature des êtres humains. C'est l'Occident qui a fabriqué ça. C'est le Satan qui a empêché le... Avant, le travail, c'était quelque chose de... L'effort était quelque chose d'évident. Ça n'existait pas d'avoir une chose facile. Alors qu'aujourd'hui, dès que c'est difficile, on baisse les bras. Vous croyez que les gens avant, ils n'avaient pas de problème de Shalom Bayit? Les hommes et les femmes avant, ils sont toujours entendus depuis avant le XXe siècle. Toujours il y a eu des problèmes de Shalom Bayit. Est-ce que les gens, ils avaient toujours du lait à la maison et de la lumière? Non, parce que la différence, c'est que c'était évident que pour avoir, il faut en baver. La preuve, c'est que les gens, ils disaient travail, famille, patrie. Donc le travail, c'était la première valeur des gens. Aujourd'hui, le travail, c'est une honte. L'essentiel, c'est de gagner sans travailler. C'est vrai, on essaie de vous faire croire qu'on peut gagner sans se casser la tête. Et ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, le bon Dieu, il coupe les portes. Il arrête les voleurs, d'accord? Pour que les gens évitent de perdre leur temps avec des choses interdites, et il vous dit, alors, concentrez-vous sur la Avodat Hashem. Mais dans la Avodat Hashem, c'est le même principe. Tu ne peux pas être fort dans la Torah et avoir du délice dans la Torah si tu ne te fatigues pas sur elle. Tu ne peux pas avoir du délice dans la Tfila si tu ne te fatigues pas sur la Tfila. Tu ne peux pas aimer la Tzedaka si tu t'arrêtes pas de la donner. Et celui qui croit qu'il peut échapper à ça, il va tourner 20 ans, 10 ans, 15 ans, l'homme chané, il va tourner. C'est pas parce qu'il va tourner qu'il va y arriver. Donc, la raison pour laquelle Dieu a envie de créer le monde, d'avoir un ta'anoug à nous donner de la vie, c'est quand il va voir que nous, on a un ta'anoug à le servir. Et le ta'anoug à le servir, c'est un travail. C'est pas pour rien que la Kabbalah explique que Oneg, le délice, c'est les mêmes lettres que Nega, la plaie. On vous dit, il faut transformer la plaie en délice. Ça veut dire que, quelque part, pour obtenir du délice, eh ben c'est la plaie. Il faut se fatiguer. D'accord? D'ailleurs, on voit bien comment on dit néga, ça vient du mot nogea. Nogea, ça veut dire il est touché par. Ça touche à quelque chose. D'accord? Donc ça touche à quelque chose, ça veut dire ça fait mal à quelque chose. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre solution, et c'est pour ça que dans le chinour des enfants, il faut leur apprendre ça depuis le jeune âge. Avant qu'ils se trompent. Quelque chose qui donne du délice ne peut venir que par un travail. Pardon? Eh bien, il n'a rien à mettre. Vous confirmez ça? Adam, la mal yulad, la Gemara, elle demande, l'homme est fait pour la fatigue. Alors, la Gemara, elle demande, il est fait pour la fatigue de la prière ou la fatigue de l'étude? Ça veut dire qu'il est fait pour la fatigue. Et c'est pas une malédiction, la fatigue. C'est au contraire une bénédiction. Vous voyez bien comment les gens aujourd'hui, ils vont payer des endroits pour faire la gymnastique. Tu vas payer pour te fatiguer. Et pourquoi ton grand-père, il faisait pas comme ça? Parce que ton grand-père, il se fatiguait sans payer. Il marchait beaucoup. Ton grand-père, il marchait beaucoup. Il portait des paquets. Ça n'existait pas de pas se fatiguer. On suait, la vie elle était là pour suer. Donc les gens avant, ils faisaient automatiquement de l'exercice. Parce que la vie elle était comme ça. Même quand vous alliez sur un cheval, vous étiez très fatigué, parce que ça fait très mal d'aller sur un cheval. Aujourd'hui, on s'arrange de plus en plus pour ne pas vous fatiguer. Mais c'est pas vrai, c'est pas bon. Si on vous propose d'aller en voiture climatisée, dites non, je vais à pied, je vais, comme ça je vais suer. Eh oui, comme ça vous perdez des calories, vous perdez de la graisse, vous perdez tout. Donc ça veut dire que le confort, il faut pas en abuser. Le confort est un piège. Alors, c'est vrai que l'abus de la manœuvre. Pourquoi Dieu a fabriqué le confort? Pourquoi Dieu a inventé la machine à laver, des longuilles, les machines à café, les machines à trucs? Pour justement que quand vous avez fait votre café, vous avez mis 20 secondes au lieu de mettre 5 heures comme votre grand-mère, vous ayez, 4h30 pour faire une Torah, mitzvot pendant 4h30. Au lieu de ça, qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils se tapent dessus entre le mari et la femme, ils se tapent dessus parce qu'ils ont rien à faire. Mais je crois qu'il y a une erreur là. Slicha, vous n'avez pas bien compris. Je vous ai enlevé le travail de la machine à laver pour que vous alliez taper aux portes des gens qui n'ont pas, pour que vous alliez vous fassiez de la Torah avec. Alors les gens se trompent. Ils ont cru que le monde est devenu confortable en tant que but en soi. Non, le monde est devenu confortable pour que tu t'occupes de ta vocation. Donc quand quelqu'un va arriver à Rosh Hashanah, il va dire, ah zut, alors j'ai passé une sale année. Ça va pas. Mais mon ami, si ça va pas, ça ne vient que de toi. Si tu as un problème quelconque, il n'y a pas de décret d'en haut. Dieu ne décrète jamais rien aux gens. Il ne décrète que ce que toi tu as décrété. Donc si vous avez un problème, ne vous en prenez qu'à vous-même. Et je vous le dis avec certitude. C'est-à-dire que ça n'a pas de sens dans le judaïsme d'essayer de penser qu'il y a quelque chose d'incompréhensible. Vous voyez, comme il dit là-bas dans la paracha, « Anistarot l'Hachem Elokeinu ». Les choses mystérieuses appartiennent à Dieu. Il y a beaucoup de choses mystérieuses qui appartiennent à Dieu, mais c'est pas les choses de ta vie. Les choses de ta vie, elles sont pas du tout mystérieuses, elles sont très claires. Très, très claires. Tu n'as pas mis de délice à obéir à Dieu, donc Dieu n'a pas mis de délice à s'occuper de toi. C'est très grave, parce que si Dieu ne met pas de délice à s'occuper de nous, c'est-à-dire que quelque part, il laisse le hasard s'occuper de vous. Et oy vavoy que le hasard s'occupe de vous. Vous avez compris? Vous faites la queue dans un bureau. Théoriquement, l'employé doit vous recevoir avec le sourire et vous donner raison à votre demande. Si ça ne s'est pas passé comme ça, c'est que vous n'avez pas de plaisir dans la voie d'attachement. Donc Dieu, il a dit, tiens, ça le fait suer de faire la tefila pour moi. Ça le fait suer de donner un zaka aux pauvres. Ça le fait suer de faire ma mitzvot. Alors que je l'ai choisi pour ça et j'ai contrarié le monde pour ça. Eh ben tu vas voir, je vais le faire chier ce matin. Attends que tu vas voir. Alors, évidemment, les gens grognent, mais ils devraient être contents. Parce que théoriquement, pour énerver Dieu, on devrait être broyé par un tsunami, en fait. Donc on devrait être content que ça se borne à ce que l'employé vous dise, ah, écoutez, c'est pas le papier qu'il faut, reviens demain, nanana, il faut payer. On devrait être content, c'est bien payé pour ce qu'on a fait. Vous avez compris? Donc ça veut dire que le principe de Rosh Hashanah, c'est de renouveler le délice de Dieu au monde, et pour cela, c'est de réveiller le délice de nous à Dieu. Regardez ce qu'ils ont fait d'un côté ce qui semble scandaleux, vous voyez, ce que les Askanim, là, vous voyez, les gens qui tournent autour des Rabbanim. Donc, autour des grands Rabbanim, il y a des espèces de mafias là qui tournent autour et qui leur disent qu'est-ce qu'il faut signer, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut pas dire, ça. Alors ils ont décidé que il y a plus de chanteurs, plus de nakhon. Ils ont décidé pendant les vacances, plus de chanteurs, plus de spectacles. Et là maintenant ils ont décidé pour la même chose pour les fêtes. Il y aura pas de chanteurs pendant Soukhot, pas de chanteurs après Soukhot. Pourquoi? À cause de la mixité, les machins, les garçons, les filles, etc. Donc il y a quelque part quelque chose de scandaleux dans ce sens qui vont étouffer les gens. Mais d'un autre côté, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es incapable de passer la fête sans assister à un tremblement de terre de 20 000 watts. Ça veut dire que tu ne peux pas considérer la fête, te promener avec tes enfants, ou stam, rester à la maison, boire un café avec tes amis. C'est trop... Tu as besoin d'aller chercher à l'extérieur le ta'anoug. Qui t'a dit que étudier le chumash avec ton fils, c'est pas un ta'anoug? Peut-être que oui. Raconter une histoire aux gens à table, etc. Donc il y a des milliards de façons d'avoir du ta'anoug. Mais comme nous sommes superficiels et le monde nous pousse à ça, on croit toujours que le bonheur est dans les prés. Cours-y vite. On croit toujours que le bonheur est ailleurs. Mais non, le bonheur est dans ce que tu fais. Des petites choses simples. Donc tu dois arriver à creuser pour que tu aies un ta'anoug uniquement dans ça. C'est l'équation facile. Ah, ça fait vieux jeu de prendre un livre plutôt que d'ouvrir Internet. Ça fait vieux jeu, mais en réalité, c'est beaucoup plus nourrissant. Se fatiguer sur un livre, c'est plus nourrissant que de recevoir un message.
Je suis désolée d'intervenir, mais moi, on m'a dit à mon fils,
vous vous trompez. On parle pas de ce problème.
Ça a été la vérité. Et mon fils, il a attendu un truc comme ça. Alors, je suis désolée, d'accord?
Je peux vous répondre? Non, vous voulez pas, c'est pas la peine.
Oui, bien
sûr. Je vous ai dit non, c'est pas. Vous devriez apprendre à laisser votre fils tranquille. Laissez-le tranquille. Vous en occupez trop de votre fils. C'est trop, il faut pas trop.
Si je veux étudier la Torah avec lui, ça me regarde.
D'accord. Vous voulez pas comprendre, je ne vous répéterai pas un milliard de fois. Ça fait 10 fois que je vous le dis. 1000 fois qu'on vous le dit, tout le monde vous le dit. Il y a une limite, et vous devez savoir qu'il y a une limite. Vous devez savoir que votre fils est un garçon, il a besoin de fréquenter des garçons, pas trop sa mère. Atkal.
Oui, d'accord, mais quand il avait 10 ans...
Mais maintenant il n'a plus 10 ans. Il a plus 10 ans, ne soyez pas obnubilé par ça. Donc, Bekitsour, les gens, donc, doivent se resituer par rapport à ce problème, d'accord? Parce que le délice que Dieu a de nous, il est en fait, conditionné par le délice qu'on a de lui. Parce que, ça racole, vous voyez. Quand vous regardez le regard que les goïms, qu'ils soient antisémites ou pas, ils ont sur le peuple juif et la Torah, quand vous lisez des trucs, vous dites, les goïms nous prennent pour des géants, quoi. On a écrit le Talmud, on a fait ci, on a fait ça. Et quand vous rentrez dans le système, vous dites, mais pourquoi l'image que les goïms ont eue de nous à travers les siècles, on n'est pas capable de la ressentir nous-mêmes? On est trop dans le phénomène. Vous voyez les goïms, comment ils disent, les synagogues. Il y a des milliers de goïms qui vont aux synagogues pour voir comment les juifs prient, comment les juifs étudient, comment les juifs mangent kasher. Tous les étonnent. Et d'ailleurs, vous voyez bien que même les antisémites, ils disent la même chose. Ils disent, comme vous ne respectez pas votre loi, vous allez disparaître. Donc tout le monde comprend ça. Mais nous, dans notre vie personnelle, on a une marchandise et on n'en est pas fier. Vous comprenez? On a un trésor et on le considère pas comme tel. Vous comprenez? Avant, les gens n'avaient pas de livres. Aujourd'hui, on a des livres. Alors, on a des livres pour les regarder. C'est-à-dire que, quelque part, le diable veut nous empêcher d'être profond. Alors on cherche du bruit alors qu'on pourrait être dans le silence. C'est plus agréable le silence que le bruit. Bien sûr que c'est plus agréable. Et pourtant tout le monde cherche le bruit. Tout le monde met les casques pour faire le plus de bruit dans les oreilles. Ah ben c'est bien, vous êtes pas mal si vous préférez le silence. Donc ça veut dire qu'on doit revoir tout le problème. Et à ce moment-là, on s'étonnera pas de passer une bonne année, parce que effectivement, on aura réveillé en nous un peu plus d'intérêt à la Torah et aux mitzvot, et pas faire les choses milet brera, il n'y a pas le choix. Tout le monde le fait, donc je le fais. Il n'y a plus rien à faire ailleurs, donc je le fais. Non, il y a encore à faire ailleurs si tu voulais, mais l'intérêt, il est là, là où tu es. Un mizmor Tehilim, ça a une musique beaucoup plus agréable que toutes les musiques que tu veux. Donc c'est à nous de creuser chaque fois qu'on fait une mizmor, d'y trouver l'intérêt qu'il y a dedans. Et de pas dire, bon ben, je sais pas, si tu sais pas, cherche. Cherche. Aujourd'hui, il y a tous les moyens de trouver le ta'anouk dans les mizmot. Tout est clair. C'est vrai, il faut travailler. Voilà. Il faut se forcer, exactement. Quand tu te forces, tu te rends compte que tu as un plaisir à ça. Comme quand vous n'avez pas envie de travailler à la maison, d'accord? Vous vous levez le matin, vous dites, pas envie. D'accord? Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, vous faites quand même. Et quand vous faites quand même, ben, vous êtes contente. Vous êtes plus heureuse dans une maison propre qu'une maison crasseuse. Et vous êtes plus heureuse d'avoir réussi un gâteau que de l'avoir acheté. Et ça, je vous le dis, c'est évident. C'est mille fois meilleur un gâteau que vous allez faire qu'un gâteau que vous allez acheter. Donc ça veut dire que Saracol, on l'a vérifié, que l'effort, c'est toujours plus agréable que la paresse. Et donc, il faut qu'on se travaille là-dessus, il faut qu'on n'ait pas peur de ça. Il ne faut pas dire, puisque c'est difficile, alors j'ai pas envie de le faire, justement. Puisque c'est difficile, c'est bien. Et Dieu va t'aider, et tu vas voir, ça va sortir tout seul. Les grands musiciens, quand vous interrogez des grands musiciens, même les athées, parmi les grands pianistes ou les grands violonistes, ils vous disent qu'il y a des anges qui les aident quand ils jouent. Pourquoi? Parce que, comme ils ont beaucoup travaillé avant le public, donc ils sont portés par ce qu'ils font, et ils se voient formidables alors qu'en répétition ils se sentaient pas aussi bien. Pourquoi? Parce qu'en vérité, quand on va s'investir, on va être aidé, il va y avoir un phénomène qui va nous aider. Qu'on appelle ça la chance, qu'on appelle ça le public qui vous regarde, appelez ça comme vous voulez, si Atalishmaya, Providence, et c'est exactement ce qui se passe. Comme les mimes qui croyaient porter l'armoire, et c'est l'armoire qui les portait. La même chose, vous allez faire quelque chose, vous allez dire, oh là, c'est immense, comment je ne sais pas par quel bout commencer. La maison est sans dessus dessous, je ne sais pas comment par quel bout commencer. Mais vous allez voir qu'il y a une fée qui va vous aider à faire, et ça va, et vous allez après être content. Donc je nous souhaite à tous une bonne année, et je nous souhaite surtout de la faire bonne. D'avoir du délice dans les préparations de la fête, et du délice dans les fêtes, et ainsi nous aurons une année qui va pratiquement pour tout le peuple juif et le monde entier.